Bonsoir à tout le monde. Donc ce soir, nous allons partager sur le proverbe 30. Et en fait, on va partager une partie du proverbe. Ensuite, on verra les prochaines fois certainement la suite. Mais on a parce qu'en fait, la deuxième partie du proverbe, ce sont ce qu'ils appellent des proverbes numériques où il est dit, il y avait trois choses et quatre, et puis il y a des choses qui sont expliquées. Et donc on verra ça une prochaine fois. Mais là, ce soir, on va voir en fait le début du proverbe. En tout cas, on va dire maximum 14 premiers versets. Et c'est assez intéressant parce que autant des fois, les proverbes, comme je vous l'ai dit, c'était un petit peu, je ne sais pas si on peut dire anarchique, mais en tout cas des déclarations un petit peu dispatchées de manière non coordonnée les unes avec les autres, en tout cas pas toujours, ou un petit peu, voilà, ou des fois c'était assez, ce qui est tout à fait correct avec je dirais, la définition de ce qu'est un proverbe, hein, de toute façon, ou une maxime. Mais là, dans ce chapitre-là, c'est pas mal parce qu'en fait, on a sur les 14 premiers versets où même si à la limite on s'arrête un peu avant, même si on s'arrête Oui, non, si, si, 14. 14. Les 14 premiers, en fait, on pourrait découper cette section en trois morceaux. Trois morceaux qui vont révéler un mot. Et c'est vraiment pas mal, en fait. Donc, en fait, je vais commencer à lire, tout simplement. Vous allez voir. Alors, Ah, zut! Bon, c'est pas grave, je ne l'ai pas pris. Le premier verset, il présente de manière très simple, donc parole d'Agur, fils de Jakhé, sentence prononcée par cet homme pour Ithiel et pour Ucal. Je m'arrête juste un petit moment là, donc là, effectivement, je n'ai pas pris ce que je voulais prendre, mais c'est pas grave, je vais vous le dire de tête. Donc, effectivement, la plupart des versions, même toutes les versions d'ailleurs, traduisent ce premier verset de cette manière-là, et donc tout le monde, les commentateurs forcément disent, ben, Agur on ne connaît pas, Jakhé, enfin pas Jakhé, mais Ithiel et Ucal on ne connaît pas, donc on suppose que ce sont des disciples de Agur, etc. etc. Et en fait, il semblerait qu'en hébreu, tout au moins la deuxième partie, ou l'ensemble en tout cas, de ce verset-là, pourrait être traduit de manière différente, et je trouve ça assez intéressant. Parce que du coup, ça change. Ce n'est plus du tout un verset de présentation dans le sens que c'est une personne qui s'appelle Agur et qui va s'adresser à Ithiel et à Ucal. Et donc, on a trois inconnus et simplement, on a une présentation qui ne nous apporte rien en fin de compte. Hein. Mais il semblerait qu'en hébreu, si on fait, on va dire, des choix de voyelles différents, on arrive à une déclaration. En fait, où l'auteur est en train de dire, je suis épuisé, je suis arrivé au bout. Donc, ça n'a rien à voir avec ce qu'on lit là, en fait. Mais c'est intéressant. Pour quelle raison? Ben, pour une raison qui est la suivante. C'est que nous allons lire la suite et vous allez voir que ça colle vraiment avec. Donc, au verset 2, certes, je suis plus stupide que personne et je n'ai pas l'intelligence d'un homme. Je n'ai pas appris la sagesse et je ne connais pas la science des saints. Ça, c'est un premier bout. Ensuite, il y a des questions qui sont posées. Verset 4. Qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Donc, on va s'arrêter un petit moment ici, juste pour dire quoi? Pour dire que cette portion-là, elle parle de l'humilité de l'auteur. Là, il est en train de nous décrire d'une certaine manière ce qu'est l'humilité, et je trouve ça très valable pour notre vie. Pourquoi? Parce que on peut avoir une idée de l'humilité qui est de s'abaisser. Voilà. De s'abaisser, de toujours prendre la mauvaise part, etc. etc. Mais. Ce qui nous intéresse ici, c'est plutôt que l'auteur, ici, alors que finalement son introduction, je vous l'ai dit, c'est de dire je suis au bout de moi-même, je suis au bout du bout, Et quelque part, la suite, ça va être un petit peu au secours. Ce qu'il nous décrit ici, c'est je n'ai rien à avancer. Je n'ai rien à mettre devant, en fait. J'avais un peu cette image. C'est comme si cet homme, il vient devant Dieu. Alors, je sais que vous allez voir, il y a une autre partie où ça ne doit pas être comme ça, mais c'est comme s'il vient devant Dieu avec une feuille blanche. Il vient devant Dieu avec une feuille blanche. Et peut-être qu'un souci que nous avons dans nos vies, dans notre relation avec Dieu, dans notre cheminement, c'est que peut-être que nous n'avons pas une feuille blanche. Nous venons pas à Dieu avec une feuille blanche, nous venons à Dieu avec une feuille qui est... Il y a beaucoup de choses écrites dessus, en fait. Alors, il y a des choses qui peuvent être agréées par Dieu, il y a des choses qui ne le sont pas, mais peu importe, ça occupe de la place. Et ça occupe de la place, donc sur la feuille blanche, bien sûr, mais ça occupe de la place dans nos têtes, ça occupe de la place dans nos cœurs, et ça ne laisse pas, du coup, libre place à Dieu pour répondre, pour agir, etc. Et donc ici, je trouve que l'attitude de l'auteur nous apporte quelque chose. Certes, je suis plus stupide que personne et je n'ai pas l'intelligence d'un homme. Je n'ai pas appris la sagesse et je ne connais pas la science des saints. Ça, est-ce que ça veut dire qu'il est plus stupide que n'importe qui? Non. Vous avez l'apôtre Paul qui dit « Je suis le premier des pécheurs ». Ben, quand je lis le Nouveau Testament et que je vois l'apôtre Paul, une fois qu'il est converti, je ne vois pas le premier des pécheurs. Je verrai plutôt le premier des saints. Je vois quelqu'un qui... Je ne sais pas où est-ce qu'il y a une faute dans sa vie, dans ce que je lis, dans ses épîtres, dans ce qu'il racontait dans Actes. Je vois pas où... Autant, même vous avez l'apôtre Pierre, vous voyez des fautes dans sa vie. Pendant le ministère de Jésus, vous voyez des fautes dans sa vie après, mais Paul, vous n'en voyez même pas. Et pourtant, il dit, je suis le premier des pécheurs. Et pourquoi? Parce que ça, c'est la bonne attitude à avoir. Je vous ai déjà parlé de l'attitude et je pense que c'est extrêmement important de considérer, de soigner, de réfléchir à notre attitude. Et si mon attitude, c'est pas, certes, je suis le plus stupide des hommes, je n'ai pas l'intelligence d'un homme, je n'ai pas appris la sagesse et je ne connais pas la science des saints, eh bien, je suis peut-être déjà un peu trop élevé dans ma propre estime. Ou dans ma manière de me présenter devant Dieu. Peut-être que je suis un peu trop haut, en fait. À partir du moment où je ne me vois pas avec ce regard d'humilité, je sais trop de choses. Et si je sais des choses, ça va m'amener à faire du tri dans ce que Dieu veut me dire. Et donc à ne pas recevoir tout ce qu'il veut. Ensuite, on va continuer. On va, parce qu'en fait, le verset principal ce soir, ça va être le verset 5. Donc, on va y revenir, en fait, au verset 5. Là, je vais vous le lire et on va y revenir. Je vais juste dire une bricole et on y reviendra parce que ça sera le point essentiel, de ce soir. Donc, alors, juste avant, oui, verset 4, pardon. Qui est monté aux cieux? Qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux de son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre, quel est son nom, quel est le nom de son fils, le sais-tu? Là, à qui il s'adresse, on ne sait même pas, il se parle peut-être à lui-même, le sais-tu, à qui tu, je ne sais pas. Mais en tout cas, il pose des questions qui sont en train de quoi? De définir un Dieu qui peut des choses que moi je ne peux pas. Ici, nous avons des déclarations qui sont synonymes ou semblables ou proches de certaines choses qui sont dites, notamment dans le livre de Job. En Job 38, verset 4, vous avez des choses qui sont assez proches de cela, et dans d'autres versets que je ne vais pas vous citer. Chose qui nous intéresse ici aussi, le dernier verset, la fin du verset 4, pardon. Non, parce que là, c'est un seul verset, en fait, tout ça. Mais la fin du verset, quand il est dit, quel est son nom et quel est le nom de son fils? Évidemment, ça fait référence à Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire que les auteurs à l'époque l'aient forcément compris comme ça. Mais en tout cas, avec ce que nous savons de la suite, évidemment que ça fait référence à Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, évidemment. Et donc voilà, il est intéressant d'avoir ces questionnements, tout simplement. Donc verset 5, toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ces paroles de peur qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. Donc ici, on va y revenir. Juste une chose à dire. Et on y reviendra d'ailleurs là-dessus. Toute parole de Dieu est éprouvée. Et le terme pour éprouver, ça parle entre autres d'un orfèvre qui va rendre pur un métal, et notamment l'or. Hein. Donc, je ne vous dis pas plus, on va y revenir. Mais voilà, juste on a cela. Ça colle, enfin, ce que je viens de dire là et ce que je dirai après, colle avec le verset 6 qui nous donne un complément de ce verset 5, puisqu'il nous dit n'ajoutez rien à ces paroles de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Et une chose juste à noter, il est dit donc toute parole de Dieu est éprouvée, il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Cette parole de Dieu qui est éprouvée, la même formule est citée en psaume 12, verset 7, en psaume 18, 31, 19, 9 et 119, 140. Donc, quatre références dans les psaumes qui utilisent la même formule de parole éprouvée. Et chose qui a noté, c'est que le lien est fait également à chaque fois ou quasiment à chaque fois avec l'idée de trouver un refuge. Ça, c'est une chose que nous pouvons aussi remarquer, parce que, bon, on y reviendra après. Ensuite, je continue. J'ai dit que j'allais jusqu'au verset 14, je n'irai pas plus loin, mais on ira quand même. Verset 7. Je te demande deux choses. Donc, tout d'abord, une attitude d'humilité. Ensuite, donc, cette emphase sur la parole de Dieu à laquelle nous allons revenir. Et la suite, elle est ici. Je te demande deux choses. Donc là, il s'adresse à Dieu. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ici, il y a une traduction, je crois que c'est français courant, qui, au lieu de parler de fausseté, elle parle d'illusion. Que je ne m'illusionne pas. Donc éloigne de moi le fait de m'illusionner, notamment sur moi-même et peut-être aussi sur Dieu. Et puis sur les gens, sur les situations, etc. Donc éloigne de moi la fausseté ou donc l'illusion et la parole mensongère. Ensuite, ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Et ça, ce sont deux attitudes que nous avons besoin d'avoir, en fait. Là-dedans, il y a plusieurs choses à noter. Une première chose, c'est que nous devons avoir au moins l'attitude intérieure de nous contenter de peu. Ça, en 1 Timothée 6, 8, il dit qu'il est satisfait avec peu. Il a appris à vivre dans l'abondance et dans la disette. Et en Philippiens 4, 12, également. Donc, dans les deux cas, il est parlé d'une manière ou d'une autre d'être satisfait avec peu. Si vous avez le manger et le vêtement, en fait, vous n'avez pas besoin de demander autre chose. Donc, ce sont ces deux versets-là. Je ne sais plus lequel dit l'un et l'autre dit l'inverse. Mais ce sont ces deux versets-là. Donc, la même idée est ici. Je te demande deux choses, mais ne me refuse pas. Ne me donne ni pauvreté ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel. Et ça, c'est bien à noter aussi pour nous parce que nous, on a une idée de la richesse, on a une idée de l'abondance qui n'est pas nécessairement l'idée de Dieu. L'idée de Dieu de l'abondance et de la richesse, c'est quand on a plus que ce qui est nécessaire. Donc on est rapidement riche en fait, on est vite riche. En fait. Et donc, il y a un piège. Un piège, voilà, on va simplement dire, il y a un piège qui est lié à cette abondance. Donc, ça ne veut pas dire que c'est mal d'avoir plus que ce qui est nécessaire. Ça veut dire que dans mon cœur, je dois me contenter du nécessaire. Mais c'est pas mal d'avoir plus. Si j'ai plus, je peux donner, je peux faire d'autres choses, je peux faire plus. Je peux aussi estimer que Dieu a voulu que j'aie plus que d'autres. Donc, avoir la possibilité de faire des choses que je ne pourrais pas faire si j'avais moins, tout simplement, je veux dire. Donc, ce n'est même pas une question de bien, de mal, etc. Mais juste dans l'attitude intérieure et dans la manière de voir les choses et de les vivre, il dit, donc, en fait, quand je suis dans l'abondance, quand je commence à avoir plus que ce qui est nécessaire, le risque, Le risque, il est là. Le risque, il est de dire qui est l'éternel. De dire qui est l'éternel. En fait, d'être dans l'autonomie, si on peut dire, mais dans un mauvais sens. L'autonomie dans le sens que je me suis. Enfin, en fait, le mot autonomie, ça veut dire ça. Mais disons que dans l'application quotidienne, dans la vie en général, c'est plutôt positif, l'autonomie. Mais là, c'est négatif dans le sens vraiment stricto sensus de la chose. L'autonomie, c'est quand on arrive à se satisfaire soi-même à ses besoins. Et donc, quand je suis autonome de cette manière-là, d'un point de vue où je crois l'être, et que ça devient spirituel vis-à-vis de Dieu, ben effectivement, je me retrouve à être avec cette pensée, en tout cas, dans ma tête, inconsciemment, et qui est fausse, qui est l'éternel. Je n'ai pas besoin. J'ai pas besoin, je suis autonome, je gère mon truc. Alors, ça peut être dans un ministère dans l'Église, ça peut être dans des dons personnels. Voilà, non, mais ça va, je sais faire. Oui, tu sais faire, c'est vrai, et on ne va pas te l'enlever, et tu vas faire avec ce que tu sais faire, mais est-ce que tu cherches l'éternel quand même là-dedans? Je sais faire de la musique, je sais étudier la Bible, je sais préparer un repas pour les pauvres, je sais ceci, cela, peu importe. Oui, tu sais faire, et tu vas faire avec ce que tu sais faire. Mais est-ce que néanmoins, mon regard, il est tourné vers l'éternel pour que ça ne soit pas simplement je sais faire, ça soit l'éternel est dans la chose. Parce que évidemment qu'on sait faire des choses, évidemment que nous ne sommes pas des handicapés avec nos deux mains, nos bras, notre tête ou quoi que ce soit. Évidemment qu'on a des capacités, évidemment que Dieu nous a donné des capacités. Et ce n'est pas pour nous piéger, évidemment. Mais qu'est-ce que je cultive? Qu'est-ce que je cultive? Est-ce que je cultive une dépendance à Dieu malgré mes capacités, ou est-ce que mes capacités m'amènent à dire ben, qui est l'éternel parce que ça va, j'ai assez et c'est bon, moi, pas besoin de personne, quoi, hein, y compris de l'éternel, en fait. La deuxième chose, donc la première partie, c'est je suis dans l'abondance et donc j'oublie l'éternel. La deuxième partie, ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Là, la chose qui me plaît, c'est que on pourrait dire ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et c'est moi qui rajoute que je ne fasse mal, je ne fasse du mal, que je porte atteinte à autrui. Enfin, je sais pas, c'est ce qui aurait pu être écrit, mais ce n'est pas ce qui est écrit. Ce qui est écrit en conclusion, c'est et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Pourquoi je m'attaque au nom de mon Dieu? Parce que je prends la parole de Dieu en vain. Parce que je présente une image de Dieu qui est faussée et qui est mauvaise. Et ça, quand je vois le texte ici, c'est plus important que, oui, là, ce que tu as fait, c'est mal. Ouais, mais ça, c'est le premier degré de l'humanité, ça, c'est mal. Il faut monter plus haut. Et plus haut, c'est je suis un mauvais témoignage. Plus haut, c'est je suis séparé de Dieu. Plus haut, c'est je montre quelque chose de faux concernant Dieu, en fait, à cause de mon attitude. Et pourtant, ce qui m'amène à faire ça, c'est quoi? C'est que j'ai pas assez. Donc, je pense que ça peut nous parler. Ensuite, on va continuer rapidement. Verset 10, ne calomnie pas un serviteur auprès de son maître, de peur qu'il ne te maudisse et que tu ne te rendent coupable. Donc ça, je ne vais pas forcément commander plus, on en avait déjà parlé dans d'autres contextes. Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. On peut estimer simplement que le serviteur, c'est l'espèce humaine, et que le maître, c'est Dieu, et qu'à partir de là, je dois considérer que le maître de quiconque en face de moi, qu'il soit croyant ou pas, de toute façon, en finalité, c'est Dieu. Et en face de moi, je n'ai que des serviteurs qui tombent, mais ce n'est pas devant moi qui tombent, même quand ils me tombent dessus. Quand je dis ils me tombent dessus, c'est que en tombant, ils me font du mal à moi, en fait. Donc, ils me tombent dessus. Ça fait mal. Mais de toute façon, ce sont des serviteurs qui tombent et pas devant moi, ils tombent devant leur maître, qu'ils en soient conscients ou qu'ils n'en soient pas conscients. C'est devant lui qu'ils seront de toute façon redevables, ici ou plus tard. Donc, et ça ne me concerne pas. Ensuite, versets 11 à 14, et nous reviendrons à notre verset de clé, on va dire. 11 à 14, ça me plaît beaucoup, ce petit enchaînement de versets. Parce que presque on se dirait, mais qu'est-ce que ça fait là en fait? Verset 11, il est une race qui. Une race, alors on pourrait traduire aussi par une génération par exemple. Hein? Il peut y avoir une petite. Une légère variation dans la traduction. On peut trouver un certain nombre de termes synonymes. Mais une race, c'est tout à fait correct parce qu'au moins. Ça va être intéressant avec ce que je veux en ressortir, parce que finalement, si on parle de race, on parle de gène. Et si on parle de gène, on parle de quelque chose qui est vraiment à l'intérieur et qui ne peut pas être remédié juste avec un coup de baguette magique. Enfin, en tout cas, la baguette, nous ne l'avons pas. Donc, il est une race qui maudit son père et qui ne bénit point sa mère. Il est une race qui se croit pure et qui n'est pas lavée de sa souillure. Il est une race dont les yeux sont hautains et les paupières élevées. Il est une race dont les dents sont des glaives et les mâchoires des couteaux pour dévorer le malheureux sur la terre et les indigents parmi les hommes. Et de quoi ça parle en fait ces quatre versets? De qui ça parle? C'est quoi cette race en fait? C'est un nouveau truc qui nous est sorti dans le livre des Proverbes, puis on n'en parle pas ailleurs dans la Bible. C'est quoi? C'est un nouveau concept? On a oublié de l'étudier? C'est quoi ce truc-là? C'est, je sais pas, là, est-ce que j'ai eu une révélation, là, au XXIe siècle? Moi, Bruno, j'ai une révélation qu'aucun théologien a eue depuis 21 siècles. Non, non, pas du tout. C'est pas du tout le cas. Cette race, vous savez quoi? C'est la race d'Adam. La race d'Adam. C'est la chair. C'est le premier homme. C'est le premier homme qui est en nous. C'est le premier fils qui naît en nous, c'est lui. C'est lui cette race. Et c'est effectivement génétique, ça vient du péché d'Adam. Et qu'est-ce qu'il est dit? Il est une race qui maudit son père. La race d'Adam, elle maudit son père qui est Dieu. Qui ne bénit point sa mère. La race d'Adam, elle ne bénit point sa mère dans le sens que elle ne reconnaît pas les bienfaits que Dieu a donnés sur terre. Sa mère, ce sont les bienfaits que Dieu a donnés sur terre. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'interprète et je pense que ça a du sens avec ce que nous avons ici. Cette race, cette race d'Adam, elle se croit pure et elle n'est pas lavée de sa souillure. Elle se croit pure et elle n'est pas lavée de sa souillure. Ça, c'est quand même très fort. Elle se croit pure et elle n'est pas lavée de sa souillure. La philosophie fondamentale de l'humanisme depuis une paire de siècles dans le monde, c'est de croire que l'homme naît bon. Et c'est le contexte, l'environnement, les autres qui le pourrissent. Ça, c'est l'inverse de ce qui est marqué ici. Il est une race qui se croit pure et qui n'est pas lavée de sa souillure. Et effectivement, elle se croit pure, elle croit que l'homme est bon, et c'est la faute aux autres. Et donc les autres, c'est quoi? C'est le hasard, et si ce n'est pas le hasard, c'est Dieu, et sinon, ben, c'est de toute façon les autres, hommes et femmes. Il y a une race dont les yeux, alors ensuite, donc elle n'est pas lavée de sa souillure. Là, pareil, une référence à Jésus-Christ. Il y a le lavage de notre souillure, de notre péché, qui a eu lieu, mais là, il n'est pas reconnu. Donc, en fait, cette race d'Adam, elle se croit pure, et en fait, elle n'est pas lavée de sa souillure, elle n'est pas lavée de son péché. Elle n'a pas de solution pour son péché, parce qu'elle le renie en croyant qu'elle est pure. Et quand, enfin, nous, mais enfin, surtout les non-croyants, mais enfin, nous, on peut avoir adopter le même genre de pensée par moment, nous croyons que voilà, oui, non, mais ça, tout le monde le fait, oui, mais personne n'est parfait, des commentaires comme ça qui peuvent tourner dans notre tête et qui sont devant Dieu des excuses, ce ne sont que des excuses. Et ce n'est pas, c'est au mieux une explication, mais ce n'est pas une excuse, ce n'est pas, surtout pas une justification, en fait. Et ensuite, donc, la conclusion, enfin, pas la conclusion, mais plutôt la conséquence de cette race qui se croit pure, au verset 13, il est une race dont les yeux sont hautains et les paupières élevées. Les yeux sont hautains et les paupières sont élevées. Vous imaginez l'image quelqu'un qui a toujours les yeux en l'air parce que tout ce qui est autour, c'est trop petit pour lui. C'est pas à sa hauteur, donc il va pas s'abaisser, il va pas regarder. Ça m'intéresse même pas. Moi, je suis au-dessus de ça, en fait. Hein? Hautain, l'orgueil, comme le diable, et les paupières élevées. Verset 14, est une race dont les dents sont des glaives. Ça, c'est la deuxième conséquence plus pratique et qui va surtout un peu plus loin. Dont les dents sont des glaives et les mâchoires des couteaux pour dévorer le malheureux sur la terre et les indigents parmi les hommes. Évidemment, c'est une image, c'est symbolique, mais ça montre quoi? Que la finalité de cette race d'Adam va mener au fait de dévorer les autres, de faire du mal à autrui. Et pourtant, on va démarrer avec « je me crois pur », donc en fait, l'homme est bon, c'est l'environnement qui le pervertit. Mais de ça va nous amener à faire du mal autour de nous, au minimum à ne pas faire du bien. Ensuite, je vais vous rajouter juste rapidement le premier proverbe numérique qu'il y a ici. On y reviendra peut-être dans les prochaines fois, mais juste, il y avait l'élément principal, sans trop développer, qui colle avec cette race. Cette race donc qui est la race d'Adam. Il est dit donc là, au verset 15, la sangsue a deux filles, donne. Trois choses sont insatiables, quatre ne disent jamais assez. Le séjour des morts, la femme stérile, la terre qui n'est pas rassasiée d'eau, et le feu qui ne dit jamais assez. Et le seul point que je veux relever de cela et qui va avec la race d'Adam, dont il nous est décrit au-dessus, c'est l'insatisfaction, le fait qu'il manque toujours quelque chose. Il manque toujours quelque chose. Et dans les quatre exemples qui sont donnés ici, je ne développerai pas plus, mais il y a des exemples où c'est comment dire, c'est factuel. Effectivement, il manque quelque chose et il ne peut pas en être autrement, en tout cas ponctuellement. Et puis, il y a aussi un élément qui est donné ici, où c'est un peu un choix, ou en tout cas une manière de voir les choses. Ce que je veux dire, c'est que quand il est dit, donc la sangsue a deux filles, donne, trois choses sont insatiables, quatre ne disent jamais assez. Le séjour des morts, donc la mort prend tous les gens, à chaque fois ça rentre. Mais ça, c'est un fait. La femme stérile. Elle est insatiable. Pourquoi? Parce qu'elle voudrait un enfant, elle ne peut pas en avoir. En fait, c'est une attitude par rapport à un fait. Le fait est réel, mais l'attitude d'insatisfaction, d'une certaine manière, c'est un choix à la fin. C'est le choix de décider d'avoir telle posture, telle attitude. Le fait, il est vrai. Il n'y aura pas d'enfant. Mais l'attitude de manque, c'est une attitude. Donc, c'est une attitude ben, personnelle, en fait, une forme de choix. Et ensuite, on a, donc sans aller beaucoup plus loin, la terre qui n'est pas rassasiée d'eau. Ben, forcément, hein, ben, si elle n'est pas rassasiée d'eau, elle manque d'eau. C'est un fait. Et le feu qui ne dit jamais assez. Le feu, c'est pareil. Tant que vous lui donnez quelque chose, c'est comme le séjour des morts. Il va brûler. Tant qu'il y a un combustible. Il va brûler le feu. Le séjour des morts, tant qu'il y a des gens qui viennent, qui meurent, ben, il prend tout le monde en fait. Mais ça, ce sont des faits. C'est un manque factuel. Et la femme stérile, ce n'est pas, enfin, ça part d'un fait, mais ce n'est pas un manque factuel. Et en tout cas, juste l'idée est que cette race d'Adam dont nous avons vu les quatre versets au-dessus, elle a comme leitmotiv, à mon avis, entre autres, ce manque. Se nourrir d'un manque, se nourrir d'une insatisfaction. Se nourrir de donne, comme la sangsue. Donc la race d'Adam, c'est comme cette sangsue. Donne-moi. Moi, je ne donne rien, mais toi, il faut que tu donnes, en fait. Il y a ce manque permanent. Et on va revenir pour terminer rapidement. Donc, Proverbe 30, versets 5 et 6. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ces paroles de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Donc juste avant ça, je résume. Nous avons une attitude d'humilité. Nous avons dans cette attitude d'humilité un développement qui nous est donné du verset 7 à 9, on va dire. 7 à 9, on pourrait inclure 10, mais c'est un petit peu différent. Mais en tout cas, 7 à 9, il y a un développement de cette attitude d'humilité, qui est de demander certaines choses à Dieu pour se garder soi-même dans l'humilité et dans une posture qui est correcte vis-à-vis de Dieu. Donc ça, c'est le premier chapitre d'humilité. Le deuxième point, c'est ce que nous avons vu, la race d'Adam. Donc c'est la chair et tous ses méfaits et toutes ses problématiques et sa manière de fonctionner. Et le troisième point que nous voyons, c'est en plein milieu, c'est toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Intéressant, dans la Bible, il nous est dit de là de rien ajouter, mais à d'autres endroits, il est dit de ne rien enlever. Et il y a des commentateurs qui disent qu'en fait, ça va de pair, de rien ajouter et de rien enlever. Et ça, il nous en est parlé dans l'Apocalypse, il nous en est parlé dans le Pentateuque, de ne rien ajouter et de ne rien enlever à la parole de Dieu ou à la loi, enfin bref, à la parole de Dieu. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que toute parole de Dieu est éprouvée. Tout à l'heure, on a parlé d'éprouver, on a parlé de l'orfèvre qui rend pur le métal, qui enlève tout ce qui ne va pas en fait. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parole de Dieu, c'est un produit fini. La parole de Dieu, c'est un produit fini. Donc, il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien à enlever, il n'y a rien. Alors, quand je dis enlever, ça peut être, par exemple, une mauvaise interprétation. Ajouter, ça va être peut-être ajouter d'autres écrits. Ça va être ajouter, j'en sais rien, la parole du pape, ça, les autres vont ajouter le livre de Mormon, les autres vont ajouter je ne sais pas quoi. Ça va être ajouter des choses qui ne sont pas. À rajouter à ce qui est fini. La parole de Dieu, elle est finie. Et dans cette finitude, ça signifie une chose, c'est que il y a tout. Il y a tout. J'ai pas besoin de la parole de Dieu plus un psychologue. J'ai pas besoin de la parole de Dieu plus je sais pas trop quoi. Des circonstances favorables, par exemple. Non, ça veut dire que en toute circonstance, la parole de Dieu, elle est finie, elle est suffisante. Dieu me dit, je dois trouver ce que Dieu me dit là-dedans pour ma situation. Et la solution, je vais la trouver ici. Et ici, il nous est dit, toute parole de Dieu est éprouvée, il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Et ça, c'est important pour nous. Pourquoi? Parce que ici, il n'est pas dit exactement que la parole de Dieu est un bouclier. Il est dit que la parole de Dieu est éprouvée, il est dit que Dieu est un bouclier. Mais comment est-ce qu'il est concrètement un bouclier et un refuge? Par le fait que moi, je vis une parole de Dieu qui est éprouvée. Une parole de Dieu à laquelle je n'ajoute rien, à laquelle je n'enlève rien et à laquelle je n'amène pas une interprétation particulière, comme le dit l'apôtre Pierre dans une de ses lettres. Quand il parle des écrits de Paul et qu'il dit qu'ils sont compliqués à comprendre, mais que les gens se perdent avec des interprétations particulières. Donc voilà, ça c'est le point. Et c'est important parce que ça signifie que quand on parle de l'importance de la parole de Dieu, c'est oui, la parole de Dieu, mais c'est la parole de Dieu avec l'attitude d'humilité que nous voyons au-dessus et avec la méfiance envers la race d'Adam qui est dans mes gènes. Donc j'ai besoin de me plier avec une humilité et de venir avec ma page blanche. Et quand je vais à ma page blanche, ça peut être aussi venir avec des doléances, des problématiques, etc. Mais dans mon attitude, mon cœur, c'est une page blanche. J'ai peut-être beaucoup de choses à dire à Dieu sur des situations, des mal-être, etc. Mais mon cœur, c'est une page blanche, ce n'est pas une page qui est remplie, qui est garnie. Et de prendre garde à la race d'Adam qui habite aussi dans mon ancien cœur. Et à partir de là, avec ces deux points-là, je peux m'approcher d'une parole de Dieu qui est éprouvée. C'est pour ça que la manière d'interpréter les Écritures est très importante, parce que si j'interprète mal, non seulement je vais me tromper moi, mais en fait, je suis en train de rajouter, d'enlever à la parole et je ne rencontre pas celui qui peut être, ou en tout cas, je limite la possibilité d'action de celui qui doit être mon bouclier et mon refuge. Donc voilà, donc vivons d'une parole de Dieu qui est éprouvée. Amen.